En sol majeur vous propose cette rediffusion.
A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Même si elle ne croit pas en la réincarnation, Helen Ling semble avoir déjà eu plusieurs vies, ou plusieurs tentatives de vie. D'abord dans les contrutes du chant lyrique, puis dans les plans séquences d'un cinéma d'art et d'essai. Voilà, c'est comme ça. Elle voulait chanter, puis faire du cinéma. Finalement, elle écrit. Et puis, ce qui devait arriver arriva. Son scénario intime lui est tombé dessus comme une coulée taïwanaise. Un western identitaire, une irruption d'origine chinoise sur sa peau tannée de française. Bref, le troisième roman de cet agrégé de lettres trône sur ma table avec ce titre très en sol majeur, Ombre chinoise.
Elle comme légende.
Bonjour Helen Ling.
Bonjour Yasmine Chouaki.
Vous êtes née en 73 à Paname et je viens de donner de tout petits indices sur votre sol majeur, qui est peut-être d'ailleurs votre sol mineur, on verra. Mais je vais vous laisser la primeur de nous raconter la légende familiale qui rôde encore, notamment autour de votre père.
Alors, la légende familiale, plutôt celle de ma mère, la grande légende.
En l'occurrence, d'accord.
Oui, c'est vrai que la question peut-être essentielle qui se pose à travers le livre, c'est que fais-je ici à Paris alors que ma mère est née à Taipei et que c'est elle qui a choisi d'immigrer dans les années 60.
Taipei donc, je rappelle, capitale de Taïwan.
De Taïwan, tout à fait, et de faire cette traversée en bateau, Taipei, Marseille, en troisième classe, qui a duré des mois. Et finalement, je dois prendre le relais de ce désir d'être ici. Et ça correspond donc à ma tentative d'écriture, à la fois mémoire et à la fois répondre à voilà, mon propre lien avec Paris. Donc la grande légende familiale, c'est que ma mère, à l'origine, serait tombée amoureuse dans sa jeunesse à Taipei d'un jeune homme très prometteur qui ressemblait beaucoup, si j'ai bien compris, à mon grand-père, c'est-à-dire au père de ma mère, et qui donc lui-même était poète, écrivait des poèmes modernes, comme elle aimait le dire, et était ingénieur par ailleurs, parce qu'il faut bien gagner sa vie. Et finalement, le jeune homme, après avoir beaucoup rêvé avec ma mère d'un beau voyage de noces en Europe, à Paris, puisque Paris, vous savez, c'est vraiment l'icône, en fait. C'est un rêve hein, pour beaucoup, beaucoup d'Asiatiques. Finalement, le jeune homme a préféré épouser la fille de son patron, façon beaucoup plus pragmatique. Et ma mère s'est soudain mise à songer qu'elle allait faire le voyage de noces toute seule. Donc, sur un coup de tête, très jeune, elle est partie en laissant tout derrière elle, en ne sachant pas ce qu'elle allait trouver devant. Et je pense, hein, puisque je ne peux que reconstituer tout cela, ce sont un peu des puzzles d'une pièce un peu archéologique, je pense qu'elle a essayé de remplacer ce rêve d'amour par une vie à Paris qu'elle a construite petit à petit, d'abord dans la communauté chinoise de Paris, en rencontrant donc le milieu un peu de la restauration, et puis en rencontrant mon père. Là, ils ont monté tous les deux un restaurant.
Alors attendez, on va s'arrêter quand même une seconde sur la figure paternelle, même si c'est,
bien sûr.
Même si c'est moins une légende apparemment. Lui est né à Tahiti.
Oui, absolument.
Il est chinois.
Il fait partie de cette communauté chinoise de Tahiti, qui est vraiment très nombreuse. Et de fait, il est né français. D'après ce que je sais, donc, hein, parce que mon père, donc, c'est plutôt un mystère. C'est une légende et mon père un mystère.
Qui êtes-vous?
Absolument. Mon père est venu à Paris après avoir vécu en Chine chez une tante à l'âge de 9 ans, je crois. Il est venu à Paris, en fait, parce qu'il voulait découvrir aussi en revenant à Papette. Il a fait une sorte de longue escale à Paris et là, il a rencontré ma mère de fait et il s'est arrêté là.
Il rencontre donc ce que vous nommez une sorte de Madame Bovary chinoise.
Absolument, puisqu'il tombe sur cette femme qui cherchait une image de l'amour dans la capitale.
On est déjà dans la littérature en même temps. Hein.
Complètement. Et un peu le cinéma asiatique qui est tellement sentimental qui utilise tellement ce type d'image parisienne.
Donc, sa vie se fait à Paris. C'est là que vous, Hélène Ling, vous voyez le jour, entre un peu de français et un peu de mandarin.
C'est comme chambre intérieure.
Et dans le trois pièces, flottait à hauteur d'homme une texture sonore instable. Elle saisissait au vol un quart des phrases lorsqu'on les articulait avec calme. Elle se déroulait sur une échelle de notes nasillarde, gutturale, une résille de monosyllabes frappée sur quatre tons, pincée, chuintée sur de vieilles cordes. L'ensemble s'agitait en rythme, hystérique, évasif. Une solution d'eau et d'huile dont elle s'étonnait de comprendre une partie, la plus élémentaire. Lait, riz, petit, grand, chien, chat, pipi, caca, dormir, manger, Chine, France, Amérique. Mao Tse-tung, Chiang Kai-shek, tuer, frapper à mort, lui parlait d'emblée. On aurait dit un tambourin soudé dans l'oreille par accident. Il ne passait par aucune traduction, il lui revenait par la gorge comme une matière organique, la béquée, les hochets et le rot de l'enfance.
Merci Hélène Ling pour ce joli rot de l'enfance, extrait de votre roman Ombre chinoise. On est donc bien sur RFI. Très en sol majeur. Que s'est-il passé avec cette langue chinoise? Je vous ai vu réagir en écoutant cette comptine Frère Jacques en mandarin.
Oui, c'est passé un incroyable saut d'une langue à l'autre. Dans une enfance enfin, dont je ne me rappelle pas, mais j'imagine qu'à un moment, j'ai dû laisser ma langue maternelle, qui je crois était le chinois, puisque d'autres gens, d'autres témoins de mon enfance, ma sœur, ma nourrice, me disait que je parlais chinois couramment et que même à un moment, je traduisais le chinois en français. Donc je pense que vraiment ma langue maternelle, c'était le chinois. Or, très étrangement, aujourd'hui, je ne la comprends que très très peu, justement. Tous ces mots élémentaires que j'ai lus, c'est encore ce que je comprends du chinois. Et bien sûr, quelques phrases très simples. Donc je pense qu'à un moment, j'ai dû m'arracher à cette langue maternelle. Sans doute parce que le contexte était très difficile et ma mère a fait une dépression à un moment. Et je suis passée au français comme une sorte de branche à laquelle je suis accrochée.
Une bouée de sauvetage,
une planche de salut. Le français, un autre monde, le monde qui m'environnait finalement m'ont sauvée.
Votre mère parlait français couramment ?
Ma mère parlait français, elle l'avait appris à l'Alliance française, elle avait pris des cours, elle écrivait un peu aussi, mais elle se sentait évidemment pas très très à l'aise dans cette langue, même si c'était devenu bien sûr sa seconde langue. Pour elle, c'était une lutte qu'elle essayait de mener, parce qu'elle me rappelait très souvent qu'au fond, j'étais chinoise, ce qui pour elle voulait dire beaucoup de choses.
De quelle manière elle vous le rappelait? Est-ce que ça passait par des codes, des rituels, des choses du quotidien?
C'était plutôt une sorte d'essence chinoise que beaucoup de Chinois ressentent au fond d'eux. Ils pensent qu'ils sont profondément, culturellement, mais aussi dans leur chair, qu'ils portent la Chine avec eux où qu'ils aillent, et même les Taïwanais. Ils sont Chinois d'essence, d'origine, c'est quelque chose de très profond en eux. Et justement, moi, le saut que j'ai fait instinctivement, et qu'ensuite j'ai dû totalement assumer, me poussait à ne pas du tout adhérer à cette idée qu'il y aurait une essence chinoise. Moi, j'étais toujours extrêmement sceptique. Alors, pour revenir à mon père, lui me disait, quand j'étais petite, nous sommes des Han. C'est un mythe nationaliste chinois, la fameuse ethnie Han, qui est censée recouvrir la majorité de la population. Et je me rappelle que même enfant, je n'y croyais pas. Je le demandais toujours avec une sorte d'étonnement. Qu'est-ce que c'est exactement être un Han? Et c'est indéfinissable. Bon, c'est une sorte de mythe nationaliste. Il y a beaucoup de manipulations politiques dans cette histoire de Han. Et moi, très rapidement, j'ai voulu couper avec justement toute cette fantasmagorie familiale.
Mais avant cette coupure, il y a cette vie avec cette maman donc dépressive qui travaille dans la restauration, qui est dans la diaspora chinoise à Paris. Donc cette essence chinoise passe en tout cas par une langue, même si il y a une rupture, il y a un éloignement. Elle passe par le temple. Est-ce qu'on va au temple avec maman ?
Pas à Paris, mais en revanche, à chaque fois que nous retournions à Taïwan l'été pour voir la famille, oui, alors il y avait ces visites au temple.
C'était exotique pour vous ?
Oui, pour moi, c'était une découverte, une interrogation à chaque fois. Je le raconte dans mon roman. Nous allions donc rendre un culte aux ancêtres. Je découvrais le funérarium, je découvrais la boîte de jade qui contenait les cendres de mes grands-parents. Et nous allions leur rendre un culte. Vous aviez un prêtre bouddhiste qui officiait. Donc tout cela, à la limite, je comprenais très bien que ça faisait partie d'un rite qui avait un sens très fort. Mais c'est qu'ensuite, je me rappelle qu'on brûlait des liasses de faux dollars dans des incinérateurs et aussi toutes sortes de petits origamis qui représentaient des avions, des voitures, des maisons. Et on m'expliquait que c'était des sortes d'offrandes votives qu'il fallait brûler en l'honneur des morts. C'est-à-dire on leur envoyait dans l'au-delà tout cet argent et tous ces biens afin qu'ils se débrouillent mieux, vous voyez, dans leur vie. Et tout cela me paraissait très étrange. Je n'arrivais pas à entrer dans ce monde symbolique. À cause de la dimension matérialiste et de mauvais goût, je trouvais,
disons-le, quoi.
Tous ces faux dollars. C'est-à-dire qu'en fait, la tradition avait déjà été complètement contaminée, je dirais.
Dénaturée,
voilà, par cette intrusion de ces valeurs marchandes représentées par ces biens de Monopoly. Et cela ne me plaisait pas du tout. Même enfant.
Bon, je ne vous demande pas quel goût avait la cuisine.
Ah, très bonne. Excellente. C'est vrai que ma mère cuisinait chinois et français aussi un peu.
Et l'histoire, elle avait quel goût ? Ça aussi, c'est une question. On va retourner sur l'année 1948 avec une figure politique qui a compté dans votre imaginaire. C'est Chiang Kai-shek, président de la République de Chine, à un moment donné de son parcours très affaibli, notamment par la guerre de son parti contre les communistes. C'est un vrai document, c'est la voix de Chiang Kai-shek, archivina pour en sol majeur. Alors, vous le savez, Hélène Ling, très souvent les émigrés, les exilés et les enfants des émigrés et des exilés laissent derrière eux non seulement leur village, mais aussi l'histoire du pays qui va avec. Est-ce que l'histoire de Chine et de Taïwan, dirigée donc d'une main de fer par Chiang Kai-shek, vous a été racontée ?
Très peu. Uniquement par bribes, par images, contradictoires. D'un côté, je sentais bien partout quand je retournais à Taipei cette ombre qui planait sur toute la vie de l'île, notamment par exemple, le grand monument en l'honneur de Chiang Kai-shek qui trône au cœur de la capitale. Et puis sans arrêt étaient diffusées des images, justement des enregistrements de sa voix. Il était omniprésent, bien que mort. Par ailleurs, c'est son fils qui lui a succédé, Chiang Ching-ko. Donc on les appelait les deux Chiang. Et ils dirigeaient tous les deux, en famille d'une certaine façon, la vie du pays. Et par ailleurs, je sentais qu'il y avait deux visages. Donc d'un côté, on était censé respecter cette figure et cette loi. Donc par exemple, nous subissions sans arrêt la propagande du Kuomintang. Je raconte aussi dans le livre que lorsque ma sœur et moi nous allions au cinéma, nous étions obligés de regarder un film de propagande de 15 à 20 minutes où on nous montrait tous les travailleurs, tous les gens de la vie civile qui travaillaient à l'édification de Taïwan et à en faire une sorte de, vous savez, de tigre économique qui partait à l'assaut de l'Asie, voire du monde. On était obligés de regarder ça et à la fin, tout le monde se levait, se tenait au garde à vous et se mettait à chanter l'hymne officiel. Alors, c'était l'occasion de crises de fou rire épouvantables. Ensuite, nous avons dû arrêter de rigoler parce que par ailleurs, il y avait une autre phase beaucoup plus obscure, bien sûr, de ce règne du Kuomintang et que ma mère parfois m'avait laissé entendre, mais par bribes et d'une façon très confuse, certains soirs où elle avait pris ses médicaments et sa parole n'était pas très claire et elle me parlait de gens qui disparaissaient et dont on ne retrouvait jamais la trace. Et ensuite, elle me parlait comme d'une vision de cauchemar, de corps qu'on retrouvait au fond de l'eau, les mains attachées. Et pour moi, donc, j'alliais forcément les deux. La vie de jour avec l'obéissance au chef, etc. Et puis la vie nocturne avec finalement la répression et le meurtre des opposants politiques.
Alors avec ce décorum autour de vous qui est quand même tourné, même si vous dites que c'est par bribes, Hélène Ling, très tourné vers cet Extrême-Orient, l'essence de Paris, j'ai envie de reprendre cette expression, circulait de quelle manière en vous finalement? Est-ce que Paris n'était pas une ville exotique avec cette vue sur Taïwan et sur cette Chine lointaine?
Longtemps dans mon enfance, il y a eu comme un entre-deux, mais Paris était finalement le cadre de vie que j'avais profondément choisi.
Il y a eu un choix?
Oui, je pense, j'imagine en tout cas qu'il y a eu un choix à un moment. Le saut vers le français, toute cette défiance que j'avais envers ce monde asiatique qui finalement me semblait à la fois autoritaire, qui était extrêmement séduisant aussi par certains côtés, mais qui restait très mystérieux.
Opaque.
Opaque. Et cette distance, moi j'étais sur la rive française, si vous voulez. Et même si je traversais régulièrement, je me sentais profondément ancrée en France. Et ça crée une distance avec les miens, ce qui était très étrange évidemment pour moi.
Vous étiez l'étrange étrangère de la famille.
Exactement.
Alors vous avez un pied tourné vers l'histoire malgré tout et puis un œil dans les salles obscures, Hélène Ling. Par exemple, lorsque le film franco-taïwanais Three Times, sorti en 2005, arrive, il ne vous échappe pas. Ce film raconte trois histoires d'amour sur trois années, 1911, 1966 et 2005. Et l'extrait que vous souhaitiez entendre en particulier se déroule autour de trois micro-événements. Une partie de billard, une chanson taïwanaise et la lecture d'une lettre. Un extrait en sol majeur sur RFI du film de Wu Shaoxian avec son film Three Times. Qu'est-ce qui se passe à l'écran et qu'est-ce qui se passe surtout en vous, Hélène Ling, devant ce film très nouvelle vague chinoise?
Mais c'est très étonnant, je crois avoir redécouvert finalement une partie de ma jeunesse à Taïwan que j'avais refoulée, oubliée, en regardant du cinéma de la nouvelle vague chinoise et taïwanaise. Et surtout le cinéma de Wu Shaoxian. Dans ce film, on entend la lecture d'une lettre alors que se déroule par ailleurs une partie de billard entre justement ces jeunes Taïwanais qui cherchent à passer le temps, qui se cherchent, qui cherchent leur identité et quel avenir ils peuvent avoir sur l'île. Et en même temps, ils boivent de la bière. Or ça, c'est une scène qui est caractéristique de ce que moi-même je voyais et je vivais lorsque je retournais à Taipei. Au troisième étage de la maison de mon oncle, le patriarche qui dominait toute la famille, j'avais tous mes cousins qui étaient affalés autour du billard, qui buvaient des bières et puis qui faisaient de très très longues parties de billard américain sur fond d'une musique un peu sirupeuse, un peu sentimentale comme celle qu'on vient juste d'entendre. Et cela me semble être vraiment là, pour le coup, une sorte d'essence du sentimentalisme chinois. De cette façon d'être perdu, alangui, de se perdre dans des rêves d'amour impossibles, tout en essayant de s'américaniser. Et ce mélange était vraiment caractéristique de ces années 80 à Taïwan. Et c'est vrai qu'alors, un peu plus tard, lorsque j'ai découvert les films de la nouvelle vague chinoise, ça m'a paru vraiment dire l'essentiel. Et il me semble qu'on peut découvrir Taïwan et même la Chine à travers le nouveau cinéma chinois, qui est extrêmement riche.
Mais vous avez rêvé aussi de faire du chant lyrique.
Mais oui, j'ai un peu tout essayé, je
Vous
crois.
Avez l'air désolée même de ça. Ça n'a pas marché.
Pas autant que j'aurais voulu.
D'où Marianne Anderson, 1897-1993, grande chanteuse, première afro-américaine à avoir chanté au Metropolitan Opera en 1955 aux États-Unis. Mais bref, vous, Hélène Ling, j'imagine que c'est ces qualités vocales qui vous intéressent.
Oui, c'est un mélange de la beauté extraordinaire de sa voix et en même temps de toute l'histoire qu'elle porte.
Il faut imaginer un tout petit bout de femme noire qui a les mains jointes en chantant, habitée par ce chant à la fois lyrique et négro-spiritual. Marianne Anderson sur RFI avec « Sometimes I feel like a motherless child ». Parfois, je me sens comme un enfant sans mère. Hélène Ling, il y a la voix, mais il y a aussi les paroles.
Oui, bien sûr. C'est un mélange justement de négro-spiritual et d'une sorte de tragédie intime que j'ai pu moi aussi traverser. Donc pour moi, cette chanson est très chère à mon cœur et cette figure est absolument sublime.
Oh.
Oh, comme l'origine du monde.
C'est quoi l'origine du monde de Mademoiselle Ling, Hélène, de son prénom? Depuis 20 minutes, en sol majeur a remarqué que l'origine de tout chez Hélène, c'est la voix. La voix sous toutes ses formes.
Chine, France, Amérique. Mao Tse-tung, Chiang Kai-shek, tuer, frapper à mort. Il parlait d'emblée.
Dans l'histoire d'Hélène Ling, née par hasard à Paris, l'origine de son monde premier se situe à 10 000 km du jardin du Luxembourg, en pleine mer de Chine, mais à 10 000 lieues d'un certain généralissime. L'origine du mood, for love, d'Hélène Ling, est à rechercher du côté d'un cœur de femme, sa mère, peut-être une Emma Bovary chinoise qui aura quitté Taïwan par dépit et rejoint Paris par rêverie. S'appeler Hélène Ling, est-ce que ça peut rendre schizophrène?
Aujourd'hui, ce type de nom hybride est devenu vraiment très courant. Mais à mon époque, puisque je suis née en 1973, à Paris, c'était pas si fréquent d'avoir un prénom français et un nom vraiment à consonance chinoise. Donc oui, ça incarnait une sorte de schizophrénie que moi je ressentais, et j'ai toujours mal vécu cette suture impossible vraiment à situer entre Helen Ling, même si par ailleurs l'ensemble est assez harmonieux en vérité à cause du double L et de la brièveté. En fait, je trouve que ce n'est pas si moche.
Et une allitération qui vous séduit.
Absolument. Et une sorte de musicalité aussi. Mais je ressens toujours cette suture comme constitutive, une espèce de rupture originale dans mon enfance que je n'arrive pas à situer.
Ombre chinoise est donc votre troisième roman. Est-ce qu'on peut commencer par dire que l'un des scénaristes de ce roman, c'est Monsieur Alzheimer, comme la maladie ?
Ah oui, vraiment. C'est Monsieur Alzheimer qui m'a poussé à l'écrire très vivement. En fait, je ne l'aurais sans doute pas du tout écrit, puisque j'avais essayé de refouler précisément toute cette enfance, si ma mère n'avait pas été atteinte de la maladie de la mémoire, qu'on appelle donc Alzheimer, et qui a créé soudain une sorte de vertige, de blanc, qui était impossible à affronter pour moi, qui a été vraiment très douloureux, puisque en plus de l'exil, de l'immigration, vous aviez en plus cette...
De la légende aussi familiale, oui.
Voilà. Eh bien, vous aviez soudain une sorte de désagrégation totale. Tout partait par bribes, par fragments, le délire, la perte de la langue, puisque ma mère a oublié d'abord le français, et puis ensuite s'est remontée jusqu'à la langue maternelle, le chinois. Donc elle n'était plus du tout la porteuse de ce seul lien, finalement, qui me faisait comprendre pourquoi j'étais arrivée ici. À ce moment-là, j'ai dû, moi, faire ce travail de me retourner vers le passé, que je ne voulais pas du tout remuer, et de le raconter moi-même, d'essayer de le recomposer. En sachant évidemment que c'est en grande partie une recomposition à semi-imaginaire, semi-fantasmée.
Oui, mais vous êtes la fille de Madame Bovary.
Et ben voilà.
Alors, en route pour ce roman, que vous présentez comme un triptyque, c'est un triptyque autour de, on pourrait dire, de trois fantasmes identitaires.
Oui, de trois parcours qui posent tous les trois cette question, en effet, de l'identité. Est-elle possible? Est-elle rêvée?
C'est quoi ces trois fantasmes?
Le premier, c'est le mien, qui est au centre. C'est donc mon parcours, mon enfance, ce que je raconte de cette vie partagée un peu entre Paris, mais malgré tout un peu enracinée aussi à Taïwan. La seconde ligne serait celle d'un double indien que je me suis créé, Betty Jones, la Cherokee, qui elle va vivre la traversée du continent américain au 19e siècle, en fait déportée par les Américains avec le peuple Cherokee vers l'Oklahoma, et qui va finir dans le Wild West Show de Buffalo Bill, donc qui va rejoindre à la fin de sa vie le spectacle permanent que les Indiens sont devenus finalement pour les Américains. Et la troisième ligne, obscure et fantasmatique, c'est celle du scénariste. Le scénariste, qui est peut-être celui qui aura écrit le western de la Cherokee, se voit confronté à un mafieux chinois, on peut dire, qui va financer le film dont il écrit le scénario. Il est peu à peu séduit et entraîné dans une sorte d'errance à travers Paris, sur une péniche, sur la Seine. Et dans cette longue dérive, il va se laisser entraîner vers un fantasme et vers l'accomplissement catastrophique d'un fantasme qui, en fait, je pense, est le mien. C'est celui du retour aux origines. Mais forcément, il fallait que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse cette traversée
et
à
scénariste.
Ma place. Le scénariste. La question s'avançait avec un sourire bienveillant, modulé sur la même note protectrice par des amateurs d'Extrême-Orient, des nostalgiques d'Encore, de Madame Butterfly ou de cinéma japonais. D'où venait-elle? De Canton? De Hong Kong? Du Cambodge peut-être? Elle pouvait dès lors s'attendre à leur déception, puisque la surface brute, granuleuse de sa réponse ne les laisserait projeter sur elle aucune image. Elle était née en France? Tandis que le jeu cartographique se dissolvait avec les estampes orientales, les paravents de lacs, la nostalgie des bouts du monde, il ripostait avec force. Que faisait-elle alors de ses racines? Il lui semblait âprement travaillé par ce lieu suspendu, ce nœud sans coordonnées vers lequel tendait toute leur histoire. Impossible, disait-il, on ne pouvait oublier d'où l'on venait.
Pour en sol majeur, la question des identités avec vous, Hélène Ling, savamment tricotée dans Ombre chinoise, mais où en même temps vous balancez, vous hésitez véritablement entre ce qu'on appelle le mythe des origines et le grand large.
Oui, il y a un refus de ce mythe des origines qui est très net et qui est partagé par les deux héroïnes des récits, à la fois le mien et celui de l'Indienne Cherokee. La question des origines, je la pose pour pouvoir aussi vraiment la questionner et la déconstruire dans sa partie mythique. Donc aussi bien ma mère que l'Indienne Cherokee vont traverser complètement le temps de leur vie pour certaines des continents, des langues, des cultures, vont renoncer à leur monde premier, vont devoir entrer de plein pied dans un univers qui parfois leur est totalement hostile, comme pour l'Indienne, ou disons étranger malgré tout, puisque la France, ma mère n'a jamais vraiment réussi à devenir pleinement française, on pourrait dire, elle est toujours restée entre deux, mais sans jamais, si vous voulez, essayer de revenir en arrière. L'idée, c'est qu'on assume la part d'histoire dont on est partie prenante, et on ne s'invente pas, si vous voulez, des fantasmes de fusion avec l'origine, qui, à mon avis, sont mortels et délétères, comme dans la troisième partie. L'Indienne assume jusqu'au bout son rôle de témoin de la transformation de l'Amérique pendant ce 19e siècle, où on voit finalement les Indiens, qui, à l'origine, étaient encore des agriculteurs, des chasseurs-cueilleurs au début du 19e siècle, et qui, à la fin des guerres indiennes, n'ont plus aucune place à part être justement des figurants de leur propre vie dans le spectacle américain. Et d'ailleurs, l'Indienne meurt dans le premier western tourné par Buffalo Bill, qui s'appelle Indian Wars.
Mais ce qui est étrange, et puis sans doute qu'il y a un détour chez vous par la psychanalyse, évidemment, c'est que dans ce triptyque identitaire, les trois figures se croisent, et même elles se croisent de façon, vous parlez d'ailleurs, Hélène Ling, de triade incestueuse. Et où est l'inceste? C'est ce qui m'intéresse.
C'est ce qui nous intéresse. À la fin. L'inceste est, je pense, une sorte de fantasme qui nous habite et que nous fuyons sans cesse. Quelque part, c'est comme ça aussi que j'ai vécu la fuite de mes propres origines. Ça, c'est vrai que je l'ai découvert après un travail analytique. Et mon analyste, à un moment, a mis le doigt sur le fait, très simple en fait, que ce que je croyais fuir, c'était précisément ce qui m'attirait. Bon, je crois que c'est une règle en psychanalyse, c'est quelque chose de très connu.
Ça vaut 60 euros, voilà, par séance.
Et c'est très difficile à trouver soi-même, c'est pour ça qu'on est obligé de débourser ces 60 euros. Une fois que vous le savez, ça vous permet de comprendre énormément de choses.
Et d'écrire?
Oui, en partie d'écrire, puisque vous êtes capable de mettre en scène, par des figures imaginaires, ce fantasme, oui, de fusion avec le corps paternel et maternel.
La Chine, c'est une ombre?
La Chine, c'était mon ombre qui vivait à côté de moi et que j'essayais toujours de mettre à l'écart. Et puis la Chine bien réelle d'aujourd'hui, est une ombre grandissante qui s'étend, on va dire, à l'horizon de la planète.
Avec une ombre, vous diriez, enfin c'est ce qu'on pressent à la lecture de votre livre, une ombre sur la civilisation chinoise?
Oui, une ombre sur la civilisation chinoise au sens où celle-ci, il me semble, est en perte totale de vitesse par rapport à la puissance économique qui est devenue la Chine. Et qui fait cette synthèse extraordinaire entre la structure autoritaire du Parti communiste chinois et le capitalisme le plus effréné et sans aucune limite. Et cette synthèse me semble faire exploser l'ancienne civilisation chinoise dont justement mes parents me parlaient et que moi je ne sentais pas à l'œuvre lorsque je retournais à Taïwan. Je voyais le dragon économique se développer à toute vitesse, je voyais les ghettos. Je voyais les banlieues urbaines qui étaient des sortes de bidonvilles. Je voyais les centres-villes, au contraire, qui étaient ultra-modernes, avec de grands gratte-ciels climatisés. Mais je ne voyais pas où était la civilisation chinoise. Dans les marges, certainement.
On n'a pas encore mis les pieds devant le petit hôtel de vos ancêtres, peut-être qu'on fera ça tout à l'heure, mais là, ce que je vois en sol majeur, ce sont les sept péchés capitaux s'avancer avec la figure de Kurt Weill à la manœuvre musicale et Bertolt Brecht aux paroles. Est-ce que ce serait votre petit côté anticlérical, Hélène Ling ?
Oui, il y a quelque chose, disons-le plus clairement, de marxiste plutôt que d'anticlérical.
Et pourquoi vous aimez ce morceau ?
J'aime la saveur extraordinaire, gouailleuse, ironique, rauque de cette voix de Lotolenia et bien sûr toute la critique qu'elle exprime du monde capitaliste américain que Kurt Weill met en scène.
Meine Schwester und ich stammen aus Louisiana. Heute als morgen. Wir sind aufgebrochen vor vier Wochen. Nach den großen Städten unser Glück zu versuchen. In sieben Jahren haben wir es geschafft. Dann kehren wir zurück. Aber lieber schon in sechs. Zwei Brüder in Louisiana, ihnen schicken wir das Geld, das wir verdienen. Und von dem Gelde soll gebaut werden ein kleines Haus am Mississippi in Louisiana. Nicht wahr, Anna? Ja, Anna. Stand. Wir sind eigentlich nicht zwei Personen, sondern nur eine einzige. Wir heißen beide Anna. Wir haben eine Vergangenheit und eine Zukunft, ein Herz und ein Spaß. Und jede tut nur, was für die andere gut ist. Nicht wahr, Anna? Ja, Anna.
Le charme d'un opéra façon Kurt Weill, c'est sur RFI et dans les oreilles d'Hélène Ling, romancière française qui n'en fait qu'à sa tête d'esthète.
Le régime chinois délivre un message d'unité sur fond de tension avec Taïwan. À Taïwan, une présidente hostile à Pékin a en effet été élue.
Tsai Ing-wen est devenue si populaire, c'est qu'elle affiche ouvertement ses distances vis-à-vis de Pékin. Son parti n'a jamais renoncé à un jour déclarer formellement l'indépendance de Taïwan.
Nous n'autoriserons jamais aucun individu, aucun groupe ou aucun parti à séparer un morceau du territoire chinois de la Chine, de quelque manière que ce soit et à aucun moment.
Depuis que je suis enfant, je n'ai jamais senti que j'étais chinois. Je me suis toujours identifié en tant que taïwanais.
Ici, on a la liberté de vote, la liberté de religion, le droit de manifester. Tout ça va disparaître si un jour la Chine s'empare de Taïwan par la force.
By force.
J. Comme j'aime, j'aime pas.
La musique traditionnelle taïwanaise.
Oui, la musique traditionnelle taïwanaise, j'ai découvert ça lors d'un voyage que ma mère m'a obligée de faire à Taïwan.
Obligée.
Et donc, à un moment, ce voyage, bon, touristique, encadré, en car, avec des guides, enfin, tout ce que je déteste, nous a emmenés chez les amis qui sont une très grande population aborigène taïwanaise qui, aujourd'hui, vit dans une sorte de réserve aménagée, spacieuse, mais qui est obligée donc, de faire des spectacles pour les touristes, de chant et de danse. Enfin, je dis obligée, c'est-à-dire que c'est le seul...
C'est des monstres de foire.
Voilà, c'est la seule activité économique, je pense. Et les Taïwanais, d'ailleurs, sont très fiers d'avoir ces populations aborigènes. Ils pensent que ça fait partie de leur culture taïwanaise, puisqu'ils essayent de... sans arrêt de manifester leur indépendance politique par rapport à la Chine. Donc pour eux, ça permet, le fait d'avoir des aborigènes, de dire, voilà, nous sommes une nation réellement singulière et différente de la Chine, même s'ils sont de culture totalement chinoise, par ailleurs. Donc j'ai dû assister à ces chants, à ces danses, nous étions même conviés à chanter, à danser avec eux. Enfin bon, c'était tout un folklore très artificiel. Mais il y a évidemment une sorte de grande beauté, une aura, un imaginaire qui se dégage de ce chant, c'est-à-dire ce qu'a pu être l'île avant l'arrivée des Chinois, ou lorsque les vagues successives de migration chinoise étaient encore un peu clairsemées. Cette île a dû être tout autre, et ça me rappelle évidemment la partie indienne de mon roman.
Taïwan indépendante, est-ce que vous aimez l'idée ?
Oui, j'aime l'idée, bien sûr. Alors d'abord, pour le coup, je suis héritière de cette demande, de cette exigence d'indépendance de Taïwan, qui m'a été transmise évidemment par ma mère, et aussi par un personnage curieux dont je parle dans le roman, un certain M.L., qui a vécu 10 ans avec nous, entre 1986 et 1996, et qui était un fervent défenseur de l'indépendance politique de Taïwan. Lui se cachait tout le temps, et nous ne savions pas réellement quelle était sa profession. Il disait qu'il enseignait le chinois, mais il vivait vraiment dans l'ombre, on peut dire. Donc nous pensions que c'était un espion taïwanais, peut-être même un espion du Kuomintang, un agent dormant qui attendait à l'étranger de recevoir on ne savait quel ordre. C'était très étrange. Et de façon extrêmement romanesque, 20 ans plus tard, j'ai recroisé ce M.L. dans le métro à Paris. Il m'a raconté la vérité sur sa présence à Paris à cette époque. Il m'a dit qu'en fait, il n'était pas du tout un agent du Kuomintang. Il était un dissident taïwanais. Et il fuyait l'île où il avait vu des gens se faire arrêter justement et disparaître mystérieusement dans son entourage.
Ça, pour le coup, c'est pas anecdotique pour vous ?
Absolument pas. C'est très fort.
يسألونك من أين أنت؟ بماذا تجيب؟
Quand on vous demande d'où êtes-vous, que répondez-vous?
Je réponds, je suis française, je vis à Paris, et c'est un choix que j'ai vraiment totalement assumé. Je me suis transposée finalement, imaginairement, dans cette culture, dans cet héritage. Évidemment, je n'oublie pas, je n'oublie rien. J'ai précisément écrit ce livre afin de ne pas du tout oublier quel...
Wong Kar-wai, qui vient de passer en sol majeur, le réalisateur des Anges déchus, en témoigne. Vous n'oubliez rien.
Non, je n'oublie rien. Et même, je me rappelle, je peux même dire, cette langue chinoise que vous passez, évidemment, éveille plein d'échos en moi. Mais fondamentalement, je vois bien la distance à laquelle je ressens tout ça. Je ressens tout ça de la rive française. J'ai complètement embrassé la culture française. De fait, j'enseigne le français, j'écris en français. Voilà, ma mère s'est devenue Madame Bovary. Moi-même, je me suis transformée en personnage de la bohème parisienne.
Voilà la réincarnation.
Coup. Exactement, voilà. On a trouvé la réincarnation, ouf, enfin. Et c'est bien heureux.
Oui. Vous êtes donc de la planète du Babil, je dirais, Helen Ling. Et ça vous rapproche d'un auteur qui lui aussi se souvient, Georges Perec, auteur de La vie mode d'emploi. Et vous avez en partage deux choses, tous les deux. L'écriture, bien sûr, et peut-être une certaine notion de l'espace.
Oui, le texte de Georges Perec, Espèce d'espace, c'est une exploration fabuleuse, à la fois de l'espace de la page, de sa propre page blanche, de son trauma historique majeur.
Lié à Auschwitz.
Voilà, enfin, auquel je ne peux absolument pas me comparer, bien sûr. Mais cela a créé une fêlure essentielle en lui, qu'il est sans cesse obligé de combler en faisant jouer la langue de mille et mille façons, avec une virtuosité absolument extraordinaire.
Et vous êtes en fraternité avec
je
cette attitude.
Oui, en fraternité profonde, à la fois en tant qu'écrivain et à la fois comme un personnage, on pourrait dire, de son monde. Il écrit un très beau texte sur Ellis Island, c'est-à-dire tous ces gens qui essayent de passer en Amérique en traversant un lieu vide, où ils laissent quelques traces, des valises, des morceaux de ce qu'ils ont été. Je me sens pleinement dans ce monde-là.
On va refermer cet ensole majeur avec un bout de ce monde-là. Je suis sûre que vous auriez bien aimé être l'auteur de ces lignes-là.
J'aurais adoré.
Espèce d'espace, signé Georges Perec.
J'aimerais qu'il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchés et presque intouchables, immuables, enracinés. De tels lieux n'existent pas, et c'est parce qu'ils n'existent pas que l'espace devient question. Mes espaces sont fragiles, le temps va les user, va les détruire, rien ne ressemblera plus à ce qui était, mes souvenirs me trahiront, l'oubli s'infiltrera dans ma mémoire. Il n'y aura plus écrit en lettres de porcelaine blanche collées en arc de cercle sur la glace du petit café de la rue Coquillère. Ici, on consulte le bottin et casse-croûte à toute heure. Écrire. Essayer méticuleusement de retenir quelque chose. Arracher quelques bribes précieuses au vide qui se creuse. Laisser quelque part un sillon, une trace, une marque ou quelques signes.
Un sol majeur. @rfi.fr.
Au générique de cet ensole majeur consacré à Helen Ling, un petit peu de Chiang Kai-shek, de chants traditionnels taïwanais et beaucoup d'ombres chinoises. C'est un conseil en sol majeur avec ce beau roman qui est paru chez Rivage.
On aurait dit un tambourin soudé dans l'oreille par accident. Il ne passait par aucune traduction. Il lui revenait par la gorge comme une matière organique, la béquée, les hochets et le rot de l'enfance.
En sol majeur avec Facebook, Twitter et bien sûr derrière votre poste avec le trio gagnant, Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve demain avec l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë. À demain.